Chère auditrice, bienvenue dans ta chambre. Ce mois-ci, on te parle de nous et de notre rapport au féminisme.
Ça enregistre. Vas-y.
Femme dans les flammes, votre mémoire, c'est notre matrimoine.
They are afraid of women. The power of the voice of women frightens them.
There are pervasive stereotypes about masculinity and femininity, and they serve no one.
C'est pas qu'on nous a pas appris à pas nous défendre, c'est qu'on nous a appris à être toujours vulnérables.
There was a time when women social activists asked men to stand up for their rights, but this time we will do it by ourselves.
Apparently, I am among the ranks of women whose expressions are seen as too strong, too aggressive.
Vous écoutez Ta Chambre sur l'autre radio. Bienvenue dans ta chambre, chère auditrice. Aujourd'hui, tu me retrouves Simone, toujours en poste. Et avec moi, qui est là aujourd'hui ?
Eh ben, moi c'est Chlo, encore là, encore dans le game, et content d'être là, voilà.
Bah moi c'est Juliette, petite arrivante, petite nouvelle, je viens voir comment ça se passe, et donc je suis là aujourd'hui pour partager ce podcast avec vous.
Et moi c'est Sly du coup, et je suis très contente d'être avec vous pour parler féminisme aujourd'hui, et c'est ma première fois que je suis au micro dans cette émission.
Trop chouette, merci à tous d'être là.
Ouais, c'est avec grand plaisir, moi je suis super impatiente qu'on déballe un petit peu tout ça. On a du pain sur la planche. Hein. Est-ce que vous êtes prête?
Carrément.
Bon, on peut peut-être rentrer et se mettre les pieds dans le plat dès le début. On est là aujourd'hui pour parler un petit peu, pour faire une émission peut-être un peu plus intime que d'habitude. On va vous parler de notre rapport au féminisme. Et du coup, je vous demande, c'est quoi le féminisme pour vous?
Qui commence?
Ok.
Alors... Le féminisme, c'est quoi ? Pour moi, très clairement, le féminisme, c'est une lutte contre une oppression de genre. Quand on parle d'oppression, pour moi, on parle aussi de classe sociale, avec du coup une classe oppresseuse et une classe oppressée. Et du coup, le féminisme, pour moi, c'est la lutte contre cette oppression-là, qu'est le sexisme. Voilà.
Ok, bah moi ça part d'un souhait d'égalité, je pense, entre les hommes et les femmes, mais ça s'étend plus loin sur les droits liés à l'orientation sexuelle, la justice sociale, pareil, ça descend vers finalement ça découle de source vers l'environnement puisque c'est les mêmes origines, et ça rassemble aussi vachement, et pour faire une lutte commune, en quelque sorte pour faire muter les normes et les valeurs genrées, et pour un peu lutter contre le patriarcat quand même.
C'est un peu l'idée, oui. Carrément.
Pour moi, je me retrouve dans ce que vous dites. Enfin, pour moi, le féminisme, c'est vraiment une lutte pour l'égalité. Pour l'égalité entre tous les genres, enfin, entre les hommes, les femmes, les minorités de genre. Et qu'on soit tous et toutes égaux-égales. Quoi. Mm-hmm.
Ouais. Moi, j'ai pas grand-chose à rajouter. Je pense que vous avez... ce que vous avez dit, je me retrouve plutôt carrément dedans. Peut-être, je dirais que de mon engagement féministe, qui me semblait très global, quand il m'a pris, quoi, j'avais l'impression qu'il englobait tout. Je le trouve de plus en plus particulier. Oh, je ne sais pas si tu veux réussir à dire ce que je veux.
Tu veux dire que c'est un avis qui s'affine au fur et à mesure du temps ou
Non, en fait, j'avais l'impression que le féminisme, quand j'ai commencé à être féministe, c'était un prisme avec lequel on pouvait lire toutes les oppressions, toute la société, tu vois, tout... Et en fait, aujourd'hui, j'ai l'impression que ça ne caractérise qu'une oppression qui n'a pas de sens si elle est isolée et restreinte, tu vois, des autres. Et quand je réfléchis un petit peu à comment tout ça s'articule, et tout ça, en fait, je le classe plutôt... sous le joug des oppressions générées par le capitalisme, en fait. C'est là où je veux en venir, d'un féminisme très pur féminisme des débuts de quand j'ai commencé à lutter. Aujourd'hui, je vois la lutte contre le patriarcat comme une extension du capitalisme, en fait. Et je trouve que voilà, c'est la lutte contre le capitalisme englobe plus de choses. Même si, en réalité, je lutte pas vraiment contre le capitalisme, mais je ressens son oppression.
Non, mais je suis d'accord pour dire que plus je réfléchis au féminisme et à mon féminisme, plus je me dis qu'il n'y a pas seulement un aspect social et que le patriarcat, il n'a pas créé que ces inégalités, qu'il y a aussi le capitalisme qui va avec. Effectivement, compliqué d'expliquer, mais je le relis facilement aussi.
Bah, je pense que c'est aussi lié un peu à la notion d'exploitation des corps. Pour qu'il puisse y avoir exploitation de corps et d'être, eh ben, forcément, il faut passer par des oppressions qui peuvent être, du coup, le sexisme, le racisme.
Ouais, c'est ça. Il y a forcément une classe de dominants-dominés qui est nécessaire au fonctionnement du capitalisme. Et ça, je trouve qu'on le retrouve dans plein d'oppressions. En fait, je suis pas une experte dans la lutte antiraciste, par exemple. Mais si tu regardes, par exemple, toutes les questions liées à l'esclavage, c'est clairement des questions de faire du profit sur l'exploitation d'êtres humains. Et ça, ça découle du capitalisme. Voilà ce que je voulais dire. Qu'en fait, le féminisme qui me paraissait très, très global, très englobant, quand j'ai commencé à militer, me paraît aujourd'hui beaucoup plus restreint. Et je pense qu'il faut vraiment le considérer dans une multitude d'oppressions.
Mais au sujet du lien capitalisme et sexisme et racisme, eh ben, il y avait un bouquin, je ne sais pas si je vous en avais déjà parlé, qui s'appelle « Caliban et la sorcière » de Silvia Federici et qui analyse vraiment bien les choses là-dessus. C'est vraiment un bouquin qui parle de comment la société capitaliste s'est créée sur l'exploitation et le massacre des personnes femmes qui étaient exploitées ou massacrées dans les... notamment avec l'Inquisition, etc. Et du coup, il met en lien vraiment les notions de capitalisme et sexisme, et du coup je vous le conseille vraiment.
Mais c'est un essai ou c'est un roman ?
C'est un essai historico-politique, quelque chose comme ça. C'est, c'est assez lourd à lire, hein. Enfin, quand même, c'est chargé et tout ça. Ça retrace vraiment, c'est très histoire, quoi. Donc il faut s'accrocher.
C'est dommage parce que le titre me faisait miroiter un petit peu un roman, un petit peu à la... Moi, Tituba, sorcière, je ne sais pas si vous l'avez lu, de Marie Scondé. Tu vois, j'imaginais un truc un peu comme ça, mais non, dommage.
Dommage.
Mais je le tenterai peut-être quand même.
Et ben, du coup, quand on parle de féminisme entre nous, j'ai été un peu dans la rue à Laval pour sonder quelques personnes pour savoir qu'est-ce que c'était le féminisme pour elles. Donc je vous propose d'écouter.
Non, mais qu'est-ce que c'est le féminisme pour toi ?
Féminisme, c'est le droit des femmes, tout ce qui touche aux femmes en fait, au quotidien en fait. Oui, c'est ça. Okay. Tout ce qui touche aux femmes au quotidien. Enfin, c'est pas une lutte pour moi. Enfin, c'est une lutte maintenant malheureusement, mais ça devrait pas être une lutte en fait. Ça devrait être un mot commun qu'on utilise tout le temps, sans préjugés et sans tabous. Mais malheureusement, derrière, il y a plein de préjugés, plein de tabous. Donc c'est pas cool.
Que t'évoques le féminisme ? L'égalité, du coup. Ok. Et quel est ton rapport au féminisme ?
Moi, personnellement, je me considère pas comme féministe. Après, les femmes qui le font, c'est leur combat à elles, quoi.
Et moi, pareil. Enfin, en fait, c'est pas que je me considère pas comme féministe, c'est juste que je soutiens, mais je défends, mais je vais pas forcément...
C'est pas une lutte acharnée.
Ouais, voilà, je vais pas forcément le revendiquer et le dire tout le temps, oh, « Oui, je suis féministe. Wow. »
Ok. Que m'évoque le féminisme ? Je dirais une lutte pour l'émancipation des femmes et des minorités de genre.
Est-ce que tu es féministe ?
Je me définis comme une personne féministe, effectivement. Même si des fois j'ai un peu le sentiment de ne pas l'être, la sensation de ne pas l'être suffisamment. On va dire que ça dépend de ma... Je sais pas trop pourquoi, mais ça dépend un peu de ma disponibilité émotionnelle, ou je sais pas. Des fois, je vais pouvoir m'engager de manière plus intensive, et d'autres fois, je vais laisser complètement ça de côté.
Je sais pas si je pourrais dire... Enfin, moi, personnellement, je sais pas si je pourrais dire que je me sens féministe, mais... Mais bah oui, en vrai, je veux la l'égalité homme-femme, donc oui, en soi, oui.
Moi, je dirais, de prime abord, non. Après, bah, toute femme en soi doit être féministe, entre guillemets, mais je me sens pas forcément.
On est, femmes, on est des femmes, donc c'est logique qu'on veut l'égalité homme-femme. Sinon, ouais. Ce serait, bah...
Vous sentez qu'il y a besoin qu'il y ait...
Bien sûr. Ouais.
Je pense que je suis dans une génération un peu entre deux. Moi, je suis une génération où je viens d'une famille un peu patriarcale. Et maintenant, je fais face avec les réseaux sociaux et tout, à des choses avec des jeunes qui s'expriment et tout là-dessus. Et c'est, je trouve ça génial. Et du coup, moi, je suis un peu entre deux. Du coup, je suis un peu perdue parfois. Mais quand même, je me rends compte que de plus en plus, ça va pas du tout ce qui se passe avec nous, les femmes. Donc voilà, je suis de plus en plus féministe et tant mieux.
Encore un autre garçon qui me prend pour une conne. Tu sais que j'ai pas joui, je te donne si tu donnes. Encore un autre silence, autre faux pas dans la danse. On s'amusait pourtant, pourquoi t'es plus marrant? Alors non, je veux pas sucer l'envie, tu m'as coupé. Non, c'est pas comme ça qu'on s'amuse à deux. Parce que là t'es tout seul, dis pas que je tire la gueule. Non, c'est pas comme ça qu'on s'amuse à deux. Je vais pas chercher à t'expliquer pour que tu comprennes que c'est pas. Banal. Alors non, je veux pas d'anal, toi non plus ça fait mal. Non, c'est pas comme ça qu'on s'amuse à deux. Parce que là t'es tout seul, dis pas que je tire la gueule. Non, c'est pas comme ça qu'on s'amuse à deux.
Louisa Donna. Donc moi j'ai choisi Louisa Donna pour la façon dont elle arrive à dénoncer et éduquer en musique de façon sympa quand même la question du féminisme, du consentement, de la relation qu'on peut avoir avec les hommes et nous, nos pensées féministes et toute l'histoire du féminisme.
On a parlé un petit peu de ce que c'était le féminisme pour vous et on sait que le féminisme ça touche plein de sujets. Est-ce que il y a des sujets qui vous touchent en particulier, des luttes qui vous touchent plus que d'autres dans le féminisme?
Moi, je pense que ce qui m'a le plus touchée à premier abord et ce qui me touche le plus toujours aujourd'hui, c'est tout ce qui touche au harcèlement, aux violences, que ce soit harcèlement de rue ou violence physique, psychologique, viol, agression sexuelle, peu importe. Mais c'est ça qui va me mettre en colère et qui va me demander de plus me battre.
En vrai, je connecte pas mal à ce que tu dis dans l'idée où moi, je pense qu'au début, ça a été les premiers trucs qui sautaient aux yeux et grâce aux réseaux sociaux et à toute la parole qui s'est libérée, je pense que ça a permis vraiment un essor de comment dire,
toute cette parole.
Ouais.
Cette libération.
Ça a permis de vraiment prendre en conscience, je pense, les violences comme des violences, alors qu'avant elles n'étaient pas forcément identifiées comme telles et tout. Et du coup, je trouve ça super intéressant.
Non, mais je te rejoins totalement. Et c'est vrai que moi, c'est un sujet qui me touche beaucoup. Je pense que c'est vraiment ma porte d'entrée dans le féminisme aussi. Pas forcément le sujet par lequel je suis entrée dans le féminisme, mais le sujet qui m'a plus portée dans les luttes, parce que je me suis reconnue en tant que victime de violences sexuelles et sexistes. Et je te rejoins dans le sens où ce qui m'a beaucoup touchée dans cette manière de lutter, c'est que quand tu commences à raconter ton histoire, et c'est toujours difficile hein, de raconter ce qui t'est arrivé, bah, d'un seul coup, t'as trois copines qui vont venir te voir en te disant bah, « tu sais, moi aussi, il m'est arrivé la même chose, et puis on t'envoie des messages, et puis à chaque fois que t'en parles, en fait, t'as l'impression que t'as trois personnes en minorité de genre qui sortent de l'ombre pour venir te raconter que ils ou elles ont vécu ces choses-là aussi, et c'est hyper fort, ça donne beaucoup de force. Alors c'est terrible, hein, franchement, ça fait mal au bide de ouf, mais sortir du silence et en parler, on se rend pas compte de la force que ça donne, en fait, quand on partage ces expériences-là, c'est assez fou, quoi, vraiment, de pas se sentir seule.
C'est le moment où tu te rends compte que t'es la petite histoire dans la grande histoire,
ouais.
Et que ça connecte, et que du coup, tu peux commencer à faire groupe pour dire que t'es pas d'accord, enfin, et te battre collectivement, quoi.
Du coup, vu qu'on est sur le sujet des violences sexuelles et sexistes, j'avais envie de vous lire un petit extrait des Orageuses de Marcia Burnier. Je sais pas si vous le connaissez, ce livre. Non.
Non.
C'est un... Tu connais, Claude ?
Non, on m'en a parlé, en fait, on me l'a conseillé, mais je l'ai jamais lu encore.
Alors, je vous le conseille énormément. Hein. C'est l'histoire d'un gang de filles qui décide de s'organiser pour aller se venger des personnes qui les ont violées, en fait. C'est hyper fort, c'est hyper puissant. Je vous lis un petit extrait. Quand elles avaient repassé la porte de l'immeuble, la copine était là, par terre, prostrée. Elle ne rigolait pas du tout, mais elle serrait fort un canif déplié. Mia s'était penchée, elle l'avait regardée dans les yeux pour lui dire que ce connard ne lui ferait plus jamais de mal. Que le mec avait compris qu'elle avait un gang avec elle, qu'il ne s'y risquerait plus, ne t'inquiète pas. La fille avait eu l'air d'aller mieux, elle avait hoché la tête, mais en vrai, elles savaient toutes les deux que c'était un mensonge que se disent les filles violées pour aller de l'avant, que dans la vraie vie, les violeurs n'ont pas peur et recommencent sans crainte. Tout le monde était remonté, on avait sorti l'aiguille et l'encre pour tatouer. Des bières circulaient et les conversations avaient repris doucement, comme si ce qui venait de se passer était ordinaire. Mia était partie peu après. Elle avait oublié de rendre le taser, mais quand elle s'en était aperçue, elle avait décidé de le garder au creux de sa poche. Ça les avait travaillées, cette histoire. Certes, elles avaient toutes lu Dirty Weekend, ce bouquin publié en 1991 et un peu oublié par la suite, qui racontait le week-end de Bella, une meuf qui n'en pouvait plus des hommes et qui passait 2 jours à assassiner ceux qui refusaient de passer leur chemin et de la laisser tranquille. Elle se l'était passée entre copines, sous le manteau, mais de là à passer à l'acte, c'était différent, un autre monde. Pendant des semaines, chacune dans leur tête, elle s'était demandé « Eh ben oui, quoi, pourquoi on ne riposterait pas ? Pourquoi on garderait toute cette violence en nous ? Pourquoi est-ce qu'on dépenserait tant d'argent chez le psy pour canaliser la colère sans jamais obtenir justice ni réparation ? » Après l'agression qu'elle avait subie, quand Inès s'était réfugiée chez Mia, elles avaient parlé vengeance toute la nuit. Mais le lendemain, et le surlendemain, et encore le jour d'après, Inès était épuisée. Et elle avait mis toute son énergie rien qu'à réussir à se lever le matin, à fonctionner. Et puis un soir, alors qu'elle reparlait de cette histoire avec le dealer, Inès leur avait annoncé qu'elle allait chercher elle-même sa réparation. Elle voulait qu'elle recommence, cette fois à Grenoble, cette fois de manière sobre et organisée.
Merci Simone pour cette lecture et du coup de voir cet entrain collectif, hein, cette sororité qui se monte, bah ça fait du bien. Le sujet des violences sexistes faites aux femmes et minorités de genre, ça me touche beaucoup. Mais en fait, c'est tout un... Enfin, moi, le sujet qui me préoccupe, en fait, c'est toute cette injustice qui est liée au genre, enfin, dans la société. Et du coup, je dirais, c'est même les trucs qui sont cachés, en fait, qu'on voit pas et qui sont là, qui planent au-dessus de nous et qui font que... Enfin, c'est insidieux, quoi. Enfin, c'est vraiment... Et moi, c'est un sujet qui me touche beaucoup. Comment sortir de notre quotidien et comment lutter contre toutes ces oppressions, en fait. Et du coup, enfin, c'est plus large, en fait. Et donc, bah, c'est aussi bien dans mon expérience de la parentalité, aussi bien dans le travail, enfin, et cette, comment dire, cette monopolisation de la place des hommes, quoi. Cis. Mmh. Voilà.
Mmh. Moi, je pense qu'au début,
Enfin, je sais pas vous, mais moi je sais que j'ai plein de positionnements et de visions qui ont beaucoup évolué avec, du coup, la recherche d'avancer dans des questions féministes, etc. J'avais l'impression que ça remettait toujours en... Enfin, ça déplaçait toujours mon regard. Des positions que je pouvais avoir avant, aujourd'hui, je les ai plus du tout de la même manière. Et je pense qu'aujourd'hui, genre, je vais être plus proche, par exemple, des milieux... queer ou LGBT, qui vont du coup se rejoindre énormément avec les questions féministes. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, les courants qui me parlent le plus, moi par exemple, c'est du coup plus le transféminisme matérialiste. En fait, un peu pour expliquer, c'est le féminisme et les questions trans qui convergent et parlent de la place que tu vas prendre dans la société et qui va induire du coup... des conditions matérielles d'existence et des possibilités ou non de subvenir à tes besoins. Et voilà. Apareciste una noche fría, un olor a tabaco sucio y a ginebra. El miedo ya me recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena. Y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mis mejillas saldrá el balón pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. El día es gris cuando tú estás y el sol vuelva a salir cuando te vas. Y la penita de mi corazón yo me la tengo que tragar con el fogón. Mi carita de niña linda se ha ido envejeciendo en el silencio. Cada vez que me dices puta se hace tu cerebro más pequeño. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mis mejillas saldrá el balón pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mis mejillas saldrá el balón pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, malo eres, porque quieres. Malo, malo, malo eres, no me chilles, que me duele.
On vient d'écouter Malo de Bébé. C'est une chanson qui m'a beaucoup marquée, étudiante, parce qu'en fait, ça a été une découverte en cours d'espagnol et qui traite des violences faites aux femmes. En fait, et c'est une chanson en espagnol, mais dont les paroles sont hyper poignantes et qui m'ont direct parlé quand j'étais jeune et qui m'ont toujours accompagnée, quoi. Et voilà. Et j'espère que vous avez aimé l'écouter parce que moi, elle me donne de la force et du courage.
Elles disent qu'elles ont appris à compter sur leurs propres forces. Elles disent qu'elles savent ce qu'ensemble elles signifient. Elles disent que celles qui revendiquent un langage nouveau apprennent d'abord la violence. Elles disent que celles qui veulent transformer le monde s'emparent avant tout des fusils. Elles disent qu'elles partent de zéro. Elles disent que c'est un monde nouveau qui commence. Monique Wittig, Les Guerrières.
Est-ce que vous avez eu un déclic féministe particulier? Est-ce que vous avez toujours été féministe? Juliette, ça fait longtemps qu'on t'a pas entendu.
Moi, j'ai toujours pu parler facilement. Ça se voit peut-être pas aujourd'hui, mais j'ai pas de mal à prendre la parole et de ça depuis petite, même si je suis timide avec les gens que je ne connais pas. Et je pense que tout est arrivé en même temps au collège. J'ai cette impression que j'ai eu accès aux réseaux sociaux, à Internet avec mon téléphone. C'est là aussi que j'ai rencontré toutes les personnes qui constituent mon cercle d'amis aujourd'hui. Là, au collège, où tu commences aussi à aborder les questions féministes, d'écologie, un peu tous les... commencer à t'intéresser à l'actualité, à réfléchir par toi-même et à être un peu indépendante finalement. Et c'est arrivé en même temps que la vague MeToo, c'est arrivé en même temps que plein de choses comme ça. Et tout s'est passé en même temps et je pense que c'est vraiment au collège que j'ai commencé à m'intéresser, notamment en voyant sur les réseaux sociaux les décomptes des féminicides, même si je sais que le terme est rediscuté aujourd'hui. Et les témoignages d'agressions, de viols. Et surtout avec ma meilleure amie, on en parle énormément. Et toujours aujourd'hui, presque tous les jours, on va discuter de féminisme ou de tout sujet qui tourne autour. Et voilà, tout part de là.
Ok, merci de partager ça avec nous. Sly, est-ce que tu veux nous raconter un peu?
J'ai pas eu un déclic franc, mais en fait, j'ai fait des études dans une école d'ingénieur où il y avait beaucoup d'hommes, enfin de garçons, quoi. Et du coup, très vite, j'ai trouvé ça trop injuste, en fait. Il y avait des salopes et des donjuans, quoi, mais vraiment. Et je comprenais pas, enfin, je me disais, mais c'est injuste, qu'est-ce qui se passe? Et je me souviens, j'essayais de militer intérieurement auprès de mes amis, je disais, mais quand même, tu te rends compte de ce que tu dis, c'est ridicule. C'est pas une fille facile, enfin, juste elle adore profiter de la vie, c'est cool, quoi. Et à chaque fois, je me disais, ah, mais Sly, t'es chiante, Sly, tu réfléchis trop, tout ça. Et du coup, ça a fait comme un petit déclic, mais sans vraiment le formaliser. Et après, j'ai commencé à me renseigner de plus en plus, et en fait, à trouver des références. Et j'étais contente parce qu'enfin, tout ce que j'avais pu penser, enfin, je le voyais écrit par des personnes théorisées, et je me disais, ah, je suis pas toute seule, donc j'ai lu Simone de Beauvoir, Virginie Despentes, et donc tout ça, ça a forgé mon féminisme, et du coup, en fait, je croyais, enfin, à chaque fois, je crois me dire, ah, c'est bon, là, le déclic, je l'ai eu, et je suis vraiment à fond dedans, et en fait, non, chaque jour, ça se renforce. Après, je travaillais dans les travaux publics, mais là, c'était encore pire. Enfin, et du coup, c'est des amoncellements de déclics, quoi. Et là, récemment, j'ai eu annonce live. Voyons, je suis d'accord, mais bon, l'égalité homme-femme, ouais, c'est pas la priorité, quoi. Il y a quand même l'environnement. Voilà. Donc, je sais pas.
C'est absolument incompatible.
Comme s'il fallait faire des priorités.
Mais exactement. Donc, voilà mes déclics. En fait, je m'inspire de la faune sociale autour de moi, quoi. Enfin, je sais pas comment dire.
Ouais. Merci.
Moi, je pense que c'est pareil. J'ai pas forcément eu de déclic et tout ça. Particulier. Enfin, je sais qu'il y a il y a un peu des événements marquants. Enfin, je pense que moi, avant de oser utiliser ce mot féministe, genre je me disais humaniste, tu sais, comme les gens ils disent,
exactement.
Genre toi tu fais pas de différence entre les genres, mais en fait c'est comment ignorer en fait une oppression qui existe. Et en connectant les histoires en fait avec juste mes potes, les proches et tout ça, et de commencer à parler de ce qui avait pu arriver en fait à chacune, etc. Là en fait il y avait plein de, comment dire, de connexions qui se faisaient, de ah ok, en fait, genre c'est pas des cas isolés, et oui effectivement c'est bien des histoires de mécanismes, enfin c'est pas juste un truc d'une situation isolée, quoi. Et du coup je pense qu'à partir de là, enfin, j'ai des potes qui étaient très en colère en fait, genre après avoir vécu des trucs vraiment trashos, et du coup quand t'as des potes en colère qui croient à donf dans ce qu'elles sont en train de construire en fait, genre pour se protéger justement des violences sexistes, des violences sexuelles et tout ça, enfin moi je me suis laissée emporter dans cette vague et de tout, comment dire, de se partager plein de d'histoires, d'expériences, de vécu, mais aussi du coup de références à aller lire, à aller creuser, de ressources, etc. Et à ce moment-là, j'ai découvert plein de toutes ces ressources-là et voilà, je pense que c'est comme ça que ça s'est un peu construit et que ça continue d'évoluer en fait. C'est comment tu partages ton histoire avec quelqu'un d'autre, après avec encore quelqu'un d'autre, et qu'ensuite tu crées groupe. Enfin, moi, c'est ça qui m'a attiré et qui m'a fait plus ou moins un déclic, quoi.
C'est marrant parce que moi, j'ai eu une expérience pas du tout de construction de groupe. Au contraire, pour moi, le féminisme, ça a été plutôt... Je me suis sentie plutôt isolée, en fait. Un peu plus comme toi, Sly, pour le coup... Genre la prise de conscience, elle s'est plutôt faite dans l'opposition que dans l'appartenance, quoi. Mais ouais, du coup, moi, j'adore tout ce qui est fantastique. Je trouve que la réalité, c'est un peu boring, quoi. C'est un peu chiant. Je trouve qu'on se fait chier dans le monde dans lequel on vit. Et j'ai notamment une fascination pour les sorcières. Voilà, je trouve que c'est vraiment des figures trop cool. Et à une période où je m'intéressais pas mal, du coup, aux figures un peu historiques des sorcières, je me suis mise à écouter des podcast, à lire Mona Chollet, sorcière. J'ai pas été au bout, j'ai pas accroché. Et à écouter des podcasts de Lorraine Bastide, en fait, parce qu'elle avait fait des petits trucs autour des sorcières à un moment. Et ça a été vraiment une prise de conscience. Déjà parce que je pensais que le féminisme, c'était hyper rébarbatif. Alors, j'avais fait fac de philo quand même. Hein. Alors, le rébarbatif, j'avais un level assez high, tu vois. Mais en fait, déjà, je trouvais que c'était hyper fun et hyper intéressant, quoi. Et puis, d'un seul coup, j'ai pris conscience de la dimension systémique, en fait. En fait, j'entendais dans les podcasts de Lorraine Bastide, où elle invitait des femmes à s'exprimer, j'entendais des histoires qui me faisaient penser à des choses que je vivais. Et d'un seul coup, je me suis dit, mais en fait, c'est vrai, c'est systémique, tu vois. C'est pas juste moi qui suis inadaptée à la société dans laquelle je vis, c'est la société qui est construite comme ça, en fait. Et ouais, c'est un peu comme ça que ça s'est fait, quoi.
Oui, du coup, c'était pas tant que ça dans la solitude, mais aussi dans le fait de se rendre compte que c'est des vécus collectifs.
Ouais, mais c'est des vécus collectifs, mais dans un collectif avec des personnes qui sont pas là physiquement, tu vois.
Ouais, et que t'intériorises. Enfin, au début, tu crois que c'est toi le problème.
Ouais.
Enfin, c'est hyper malsain, du coup, tout ce système.
Ouais, carrément. Mais moi, je sais que ça m'a permis de prendre conscience du viol que j'ai vécu, en fait. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, quand j'ai commencé à refaire surgir cette histoire et à la remonter à la surface, en fait, on m'a dit, mais ça, c'est parce que maintenant, t'es obsédée avec les trucs féministes, donc voilà, maintenant... il faut absolument que tu dénonces un truc, tu vois. Alors que non, en fait, c'était le contraire. C'était le féminisme qui m'avait permis de donner du sens à un truc que j'avais vécu et juste que j'avais minimisé, quoi. Donc, voilà un peu.
Mais c'est vrai que c'était dur de... Enfin, pas dur, mais en fait, d'arriver au mot féminisme, en fait, il y avait toujours cette mauvaise... ce mauvais a priori social sur le féminisme. Enfin, pas mauvais, mais un peu de truc de hargneux, de lutte, qui est... et que je croyais qu'il avait disparu. Mais pendant les micro-trottoirs, je me suis rendu compte qu'ils étaient toujours là, ces préjugés. Et je pense que ça recule aussi dans notre approche du féminisme un peu. Parce que ça a l'air un peu extrémiste ou un peu toujours plus.
Complètement. Moi, j'ai mis du temps à m'identifier au féminisme.
Même avec ton témoignage, j'ai l'impression que du coup, c'est une bulle, le féminisme, et qui est dur de casser, quoi. Une fois que tu y es, t'es à fond dedans et t'es un peu enfermé dans ton truc « tout le monde est féministe, on va tous y arriver ». Et alors que de l'extérieur, c'est très sombre. Et même, t'as mis beaucoup de temps à t'en rendre compte. Donc, c'est la preuve qu'il y a un moment de déclic. Même si ça se fait pas en une seule fois, il y a une étape à passer entre les deux. Et c'est pas acquis pour tout le monde, même si on pense que... ça nous paraît un peu évident. C'est pas le cas, quoi.
Mais en fait, ce qui est dingue, c'est qu'une fois que t'as cette révélation-là, c'est comme si tu mettais des lunettes et que tu pouvais plus les enlever, quoi.
Oui, c'est automatique. Tout, t'analyses tout, critiques tout.
C'est clair. Et du coup, c'est vrai que... être féministe, pour moi, c'est comme on se disait tout de suite, c'est un peu avoir une grille de lecture sur le monde un petit peu particulière, vous voyez. Et par exemple, c'est savoir à quel point culturellement, on est vachement plus enclin à croire les personnes accusées d'agression que les victimes qui les accusent. Ça, on en a parlé, on en reparlera sûrement. C'est ce qu'on appelle la culture du viol. Et que du coup, quand on est féministe, c'est un principe politique de toujours, toujours croire la parole des victimes, parce qu'on sait que personne ne les croit et qu'on les remet en question systématiquement. Mais en fait, des fois, c'est difficile. Et moi, ça m'a pris un peu par surprise. Il n'y a pas longtemps, je vais vous expliquer tout ça. Bon, alors, vous n'êtes sûrement pas passé à côté, mais depuis quelques semaines, il y a le procès qui oppose Johnny Depp à Amber Heard. Cette affaire, elle n'est pas spécialement neuve parce que les premières accusations, elles remontent à 2016. Mais jusqu'à présent, moi, ça ne m'avait pas trop préoccupé. J'avais vaguement accepté l'idée que Johnny Depp ait pu commettre des violences. Je me suis pas vraiment confrontée aux déclarations des uns ou des autres. Voilà, c'était dans un petit coin de ma tête, quoi. Mais il y a eu ce procès, le grand procès de Fairfax, avec tout, absolument tout, qui est retransmis en direct à la télévision. C'est un déballage incroyable. On apprend des choses juste qui retournent le cerveau. Et franchement, c'était partout, tout le temps. Je ne voyais plus que ça. Et cette fois, j'avais plus le moyen de me détourner. Il fallait, je ne pouvais pas me pas m'y confronter. Et c'est là que pour moi, les ennuis ont commencé. Parce que à chaque article et à chaque vidéo que j'entendais, j'ai commencé à ressentir un malaise immense. Et mais c'était pas le dégoût, c'était pas le mélange de dégoût, de colère et de compassion que je ressens d'habitude, tu vois. C'était autre chose. C'était un espèce de malaise, comme une irrésistible envie d'être ailleurs et de penser à autre chose, de juste pas avoir à me confronter à ça. Et en fait, ça, je m'en suis rendu compte, ça porte un nom. Ça s'appelle la dissonance cognitive. La dissonance cognitive, c'est quoi ? C'est quand on se retrouve confronté à des infos ou à des opinions qui sont incompatibles entre elles et qu'il en résulte une tension désagréable. Par exemple, vous adorez fumer, mais vous savez que c'est très mauvais pour la santé et ça vous met mal. Moi, j'avais jamais vraiment ressenti ce malaise aussi intensément et aussi profondément avant ce procès. Ben alors, d'accord, mais pourquoi ? Parce que d'un côté, je suis persuadée qu'il faut croire les victimes de violences lorsqu'elles prennent la parole et lorsqu'elles dénoncent les violences. Mais d'un autre côté, juste, je peux pas croire que Johnny Depp soit le monstre qu'on décrit. Mais c'est pas par hasard, c'est parce que je suis pétrie de biais cognitifs. Johnny Depp, c'est l'idole de mon adolescence. Plus jeune, j'étais complètement fascinée par le personnage de Jack Sparrow. J'adorais le couple qui formait avec Vanessa Paradis. Enfin bref, je l'admirais, quoi. Et vous pouvez aller accuser PPDA ou Nicolas Hulot d'agression. C'est cool pour moi, j'aurais aucun mal à vous croire. Et c'est pas parce que j'ai une intuition quelconque que ces hommes soient des monstres en particulier, mais c'est parce que je leur porte pas d'affection particulière. Mais plus j'estime l'homme que vous accusez, plus mon jugement va rencontrer de la résistance. Et alors Johnny Depp ? Non, pas Johnny Depp. Pas lui, c'est pas possible. Bah oui, mais il faut bien croire les victimes de violence, non ? Oui, mais Amber Heard, elle a brisé un couple iconique que franchement j'aimais beaucoup, quoi. Mais bon, d'accord, mais enfin, on peut pas choisir qui on croit ou pas en fonction de si on les aime bien ou pas. Ça aurait pas de sens. Oui, mais bon, Johnny Depp, il semble si triste et si touché par cette affaire. Puis franchement, j'adore sa fille, quoi.
Oh waouh, c'est tout ce qui se passait dans ta tête.
Ouais. Bah oui, mais enfin, bon, c'est pas le premier homme puissant à abuser de son pouvoir, qui plus est sur une femme plus jeune que lui, hein. Oui, mais bon, Amber Heard, elle est probablement vénale. Et en plus, c'est sûr, elle a des motivations obscures. Et puis, en plus, non mais regarde, ils viennent juste de diagnostiquer sa folie. Et mais ça, c'est véridique.
Mais c'est horrible, ça se diagnostique, la folie.
Enfin non, ils ont diagnostiqué d'autres trucs, mais en gros, ils ont dit qu'elle était folle, quoi. Et du coup, maintenant, on a le droit de plus la croire, vu qu'on a dit qu'elle était folle, c'est bon. Bah oui, enfin bon, tu sais bien que discréditer les femmes en les traitant de folles, c'est quand même un levier classique pour les agresseurs. Voilà à peu près le ping-pong qui se joue dans ma tête, avec une petite sauce de culpabilité de mauvaise féministe au passage. Bah oui, forcément je me rends bien compte que de ce que je suis en train de faire, je ne suis pas aveugle. Et que je vois bien que j'ai des biais cognitifs absolument irrationnels qui viennent perturber mon jugement. Et j'arrive tout simplement pas à croire Amber Heard. Alors, moi j'ai trouvé une solution. J'ai décidé d'arrêter de rationaliser et juste de l'accepter. Je suis incapable d'émettre un jugement rationnel sur cette affaire. Après tout, est-ce que c'est si grave que ça ? Je peux bien projeter ce que je veux sur cet acteur, ça fera pas de mal à qui que ce soit. C'est pas à moi de rendre justice dans cette affaire, donc je vais pas causer de tort. Et puis je connais ni l'un ni l'autre, ils ont pas besoin de mon soutien, donc voilà. Je pourrais d'ailleurs juste ne rien dire et me taire sur cette affaire. D'ailleurs, je tiens à préciser, j'ai juste pas tranché en faveur de Johnny Depp, hein, j'ai juste décidé de suspendre mon jugement, c'est tout. Mais en fait, le problème, il est pas là. Et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que si moi j'avais décidé de suspendre mon jugement, le reste du monde, non. Et le reste du monde, il a pas attendu la fin du procès, il a déjà décidé qui il avait décidé de croire. Et à votre avis, c'est qui ?
Bah, Johnny Depp,
voilà.
Eh ben, bien sûr. Figurez-vous que le hashtag justice pour Johnny Depp, il a été partagé 7 milliards de fois.
Vraiment.
Le hashtag justice pour Amber Heard, il a été partagé 25 millions de fois. C'est à peu près 284 fois moins. C'est juste
ça
énorme.
Fait beaucoup, hein.
Mais au-delà de ça, au-delà de l'immense soutien qui est généré pour Johnny Depp, en fait, Amber Heard, elle est représentée comme une harpie manipulatrice. Vraiment, les attaques qui sont faites contre elle, elles sont juste horribles, horribles, horribles. Et ça, ça m'a un peu réveillée de me dire, ok, peut-être que moi, j'ai du mal à émettre un jugement sur cette affaire. Mais juste, le monde, lui, il a pas de mal. Et le monde, il est clairement encore bien, bien pétri dans sa culture patriarcale. Et ça, juste, ça, c'est dégueulasse. Moi, ça m'a vraiment intéressée, en fait. Je ne mens pas, hein, ça a vraiment été douloureux, mais ça m'a vraiment intéressée aussi d'explorer mes biais un petit peu et de voir à quel point la représentation que tu as d'une personne peut influer le jugement que tu portes.
Et je trouve que c'est super bien expliqué. Hein. Enfin, comment tu l'expliques, comment tu montres le ping-pong dans ta tête. Enfin, c'est cool non, mais c'est cool d'avoir notion que ça puisse se produire en dehors de la rationalité que normalement on a, et que du coup, ben, nous aussi, on peut en être victime, enfin, de savoir réussir à l'identifier.
Et encore, je vous l'ai fait en version simplifiée. Hein.
Mais après, même la forme, je la trouve super intéressante, parce qu'on pense souvent que les féministes sont des sadiques, qu'elles détestent tous les hommes. Alors que, bien entendu, on s'interroge et qu'on a quand même une petite conscience, on a des sentiments, on ressent des choses. Donc non, on a un ressenti différent pour chaque affaire. Enfin... On n'est pas là à partir du moment où c'est un homme cisgenre, blanc, riche et tout ça, on le met de côté. Non, on a une expérience derrière qui fait qu'on va analyser le sujet d'une façon particulière.
En tout cas, voilà comment moi j'ai été affectée récemment par mon féminisme. Parce que clairement, si j'avais cette grille de lecture, c'est parce que j'ai un prisme féminisme sur la réalité. Parce que sinon, je pense que j'aurais même pas réfléchi à mes biais. Et vous, comment ça s'exprime concrètement dans vos vies, le féminisme ?
Bah moi mon féminisme il est pas fixe, il fait que s'enrichir, je me déconstruis et je m'enrichis tous les jours, donc ça passe par des articles ou des conversations et voilà c'est, je vais avoir, il y a une idée qui va venir et ça va m'amener à me réfléchir sur moi-même aussi, c'est pas seulement une idée qui est fixe et moi je pense comme ça, non c'est j'enrichis, j'y rajoute une idée, j'en enlève et donc à la fois moi ça m'aide à savoir ce que j'aime et qui je suis. Et ça m'aide aussi à me projeter et à analyser de façon plus critique ce que je vais voir. Enfin, c'est donnant-donnant, quoi.
Bah, moi, je dirais que mon féminisme, il est un peu basé comme toi, Juliette. Et il s'exprime beaucoup dans mon quotidien. Parce que j'essaye de véhiculer une éducation féministe, vraiment. et c'est vraiment pas simple. Enfin, on en a déjà parlé dans l'émission Parentalité. Et du coup, en fait, c'est un peu une lutte, quand même, quelque chose qui est assez récurrent et qui me suit. Et donc, du coup, qui apparaît beaucoup dans mon quotidien et donc aussi dans mon travail. Et j'aimerais encore plus... exploiter mon féminisme. Vraiment travailler dans l'éducation ou quelque chose comme ça. Parce qu'en fait, c'est trop dommage, on véhicule pas assez toutes les pensées, tous les savoirs qu'on peut développer dans notre recherche féministe. Voilà. Et les transmettre. Parce qu'en fait, le but, c'est de changer quand même. Changer le monde.
Ouais.
Ça se traduit aussi dans ça s'exprime aussi dans le militantisme.
Ouais, bah carrément. Oui, oui. Enfin, moi, je pense que moi, j'avais besoin d'un exutoire à toute cette colère. Enfin, en fait, ça dépend des moments. Il y a des fois où le féminisme, c'est beaucoup de colère. Et il y a des fois où je suis moins confrontée frontalement aux impressions parce que je crois qu'au bout d'un moment, on s'entoure aussi. Oui. On s'entoure,
ouais,
différemment.
Vachement.
Et du coup, je la ressens moins directement, moins frontalement, la colère. Mais je sais que j'avais besoin d'un exutoire, et l'exutoire, je l'ai trouvé dans le militantisme, quoi. Dans la création de projets, dans le travail qu'on a pu faire, qu'on peut faire dans cette émission, qu'on a pu faire dans le livret La Parole Sportive, quand on va intervenir dans les lycées, tout ça, c'est... Puis quand on va en manif et qu'on crie...
Oui, je suis grave d'accord. Je pense que bah, la même... Enfin, comme pour moi, le féminisme, c'est avant tout une lutte. Enfin, donc, c'est par des actions militantes que ça a pu s'exprimer dans ma vie et dans celle des personnes avec qui j'ai pu vivre ces actions. Il y a aussi, bah, comme tu disais, Juliette, ce truc d'enrichir sa pensée, mais aussi de la remettre en question, que ça soit toujours en mouvement et tout ça. Et c'est, je pense, si que ça fait des va-et-vient, enfin, des allées et venues entre... essayer de se remettre en question, de remettre en question les autres personnes. Parce que je pense qu'il n'y a rien de pire que de ne plus se remettre en question. Et d'être sûr d'avoir... Enfin, moi, j'aime pas trop ce mot, par exemple, quand les gens disent qu'ils sont déjà qu'ils sont déconstruits. Ça me gêne beaucoup. Parce que je pense qu'il y a toujours à remettre en question plein de choses. Et enfin, moi, je sais que je traverse plein de milieux super différents. Et en fait, il y a des milieux où il y a beaucoup de sexisme. Mais en fait, juste, il est visible. Et des fois, en fait, je suis presque plus à l'aise avec le sexisme visible que le sexisme qui n'est pas visible. Et des fois, en fait, dans ces endroits-là, où le sexisme il est visible et où les personnes n'ont pas peur de raconter des trucs sexistes, bah, des fois, ils viennent aussi remettre en question des positions que je peux avoir qui sont intéressantes et qui me permettent de remettre en perspective aussi des choses pour que ma pensée féministe, elle soit plus complexe et plus ancrée, avec des, 'fin, en contexte et tout ça.
Moi, je peux vous proposer d'écouter quelques personnes que j'ai pu interviewer en micro-trottoir pour voir comment bah, le féminisme il s'exprime dans leur vie.
Quelle forme prend le féminisme dans ta vie ?
Bah... En soi, on en parle assez souvent. Donc, dans notre vie, elle est importante. On entend beaucoup parler du féminisme, mais nous, enfin moi et mes amis, moi, pas vie, forcément, on n'en parle pas tout le temps, mais elle est présente.
Ok. Ah bah, du coup, pareil. Il n'y a pas de... Je sais pas. Il n'y a rien à ajouter, en plus.
Ok, ça marche. Alors, ça peut être de me rapprocher des associations féministes de ma ville ou des collectifs féministes de ma ville. Ça peut être aussi dans les cercles d'amis, de sensibiliser à ces questions-là quand on voit qu'il y a des réflexions ou des comportements qui remettent en cause... l'essence ou qui remettent en cause la légitimité du féminisme et dans mon travail aussi un petit peu, mais pas suffisamment là encore. Je pense que en tant qu'enseignante je suis pas suffisamment je mets pas suffisamment le féminisme au cœur de mon enseignement.
Donc je suis épicière et à chaque fois on m'appelle et enfin il y a des gens qui me disent et du coup vous avez monté votre projet toute seule ou votre conjoint est avec vous? Et je sais qu'on ne poserait pas cette question si j'étais un homme. Donc du coup, à chaque fois, ou quand quelqu'un appelle au téléphone, est-ce que je pourrais parler au gérant? Et du coup, à chaque fois, je dis non, c'est possible qu'il y ait des gérantes. Donc j'essaye le plus... Voilà, c'est des petits trucs au quotidien où j'essaye de rappeler à l'ordre bah, pas des banalités, mais des choses qui sont faites par normalisme, quoi. Mais sinon, au quotidien, bah, j'essaye de... Avec mes parents, surtout, parce que voilà, ils ont été élevés assez dans le patriarcat. Donc j'essaye de dire attention à ci, attention à ça, avec mon conjoint aussi. Parce que la charge mentale, merci d'être une femme, et la charge mentale qui s'accompagne. Mais voilà, c'est des petites choses au quotidien, j'arriverai pas à dire quoi. Après, c'est aussi s'informer. Moi, j'adore Mona Chollet, par exemple. Et lire des choses, j'ai appris plein de choses grâce avec elle. Et puis aussi avec mes neveux et nièces. Je pense qu'il faut vachement miser sur la génération future, donc... Voilà, quand on entend mon neveu qui dit « Ben non, je peux pas pleurer, je suis un garçon », non, stop, on arrête avec ça. Et puis pareil pour voilà, apprendre ce genre de choses dès le plus jeune âge, quoi. Donc voilà, c'est des petits trucs au quotidien. Et puis après, bah, je sais pas si je peux être dans une asso, un truc comme ça, si j'avais plus de temps, c'est ce que j'aimerais faire, en tout cas. Voilà.
Tu peux écouter ta chambre.
Ouais, exactement, et c'est ce que je vais faire.
merci beaucoup, Émilie. Ça a dû être une sacrée expérience quand même d'aller dans la rue à la rencontre des gens.
Ouais, c'est intéressant, en fait. Des fois, on n'a pas les réponses qu'on a envie d'avoir, mais c'est comme ça, c'est la vie, c'est la société. Mais non, c'est intéressant et merci à elle et merci à toutes ces personnes. Ouais.
Pour boucler cette émission, peut-être qu'on pourrait s'échanger un petit peu des références, des ressources autour du féminisme, des choses qui nous parlent particulièrement.
Oui, carrément. Il y a plusieurs bouquins que je vous recommanderais parce qu'ils m'ont vraiment beaucoup marqué dans mon cheminement de pensée par rapport à tout ça. Mais il y a Caliban et la sorcière de Silvia Federici dont je vous parlais, parce que je pense que c'est ce qui m'a permis de mettre en perspective justement le féminisme et le racisme avec le capitalisme. Et il y a Stonebridge Blues que du coup tu m'avais conseillé, Simone, qui je pense m'a beaucoup marqué, que j'ai lu il n'y a pas longtemps et qu'on vous recommande encore et encore à chaque émission. Non, pas vraiment, mais qu'on avait recommandé à l'émission de décembre.
Ouais.
Et sinon, quand je parlais de féminisme transmatérialiste, je vous conseille d'aller fouiller du côté d'Emmanuel Bobassi, du coup, d'aller lire son bouquin Transfuge de sexe, et qui est super intéressant, enfin, un travail sociologique fouillé et très chouette. Et sinon, voilà, toute la littérature de Monique Wittig, again. Il faut que j'arrête parce que je cite toujours les mêmes personnes. Et ça, c'est, du coup, c'est plus pour les personnes qui ont envie de lire. Mais tout le monde n'a pas envie de lire, donc peut-être que vous avez d'autres choses. Je sais pas, des films, des vidéos, des podcasts à conseiller à nos auditrices.
Louisa Donnet, c'est une chanteuse qui a sorti son album Fatigue en 2021. Donc les textes sont sympas, c'est important d'écouter des textes qui sont féministes et qui ont fait autre chose. Et puis on entend ces paroles-là. Elle dénonce et à la fois elle éduque en musique. Et ça, je trouve ça super intéressant.
Ouais, carrément.
Moi, je peux recommander un projet qui est réalisé avec les trois éléphants et une asso à soi, donc, qui s'appelle Les noms de rue, ça trompe énormément. Et donc, on a essayé de faire un travail pour répertorier des artistes femmes, minorités de genre, qui sont en fait pas très connues ou connues, et qui en fait sont engagées dans les luttes souvent féministes. Donc je vous recommande d'aller écouter la playlist, d'aller sur le site des Trois Éléphants et de vous balader dans les rues pendant le festival.
C'est vrai que l'idée c'était de les remettre dans l'espace public et de les visibiliser un peu.
C'est ça.
C'était une démarche intéressante, ouais. Moi j'avais envie de vous recommander le film... Baigné de Thomas de Verne, je crois qu'il s'appelle en français. C'est vraiment un film très très chouette, hyper touchant, qui est sorti en 1991, je crois, qui se passe dans le sud des États-Unis et qui raconte l'histoire d'une dame qui vit en ménage. C'est le ménage assez typique, avec le mari pas très attentif, pas très considéré. Et donc cette dame, elle va se retrouver dans une maison de retraite. Alors, elle va rendre visite à une personne dans une maison de retraite. Et là, elle rencontre par hasard une personne âgée avec qui elle va devenir super pote. Et cette personne âgée va commencer à lui raconter l'histoire de deux jeunes filles qu'elle a connues dans sa jeunesse et qui ont donc monté un café où elle vendait des beignets de tomates vertes. Je vous en dis pas trop, mais... c'est une grande, grande émotion, une grande histoire de sororité d'empowerment qui est très souvent citée parmi les féministes que moi je suis et j'admire. Il est très souvent cité comme une référence d'un film un petit peu fondateur, quoi, qui a posé un peu des trucs dans l'émotion féministe, donc je vous le recommande. Si vous avez aussi envie de lire, mais peut-être moins des essais, je vous recommanderais volontiers un livre qui s'appelle The Fifth Sacred Thing, ou Le cinquième élément sacré, de Starhawk. Alors, petit disclaimer, je l'ai trouvé que en anglais, malheureusement, donc plutôt pour nos lecteurs anglophones, qui est un livre... Alors, Starhawk, c'est une sorcière. Je vous ai pas menti tout à l'heure quand je vous disais que j'étais passionnée par les sorcières. Et je savais pas qu'elle avait écrit de la science-fiction, je l'ai découvert récemment. Je suis en train de lire ce livre, je l'ai pas fini encore, mais c'est une... C'est une grande émotion, c'est un espèce de... une dystopie écoféministe où, dans un monde, disons, ravagé par la guerre, il y a la cité de San Francisco s'est rebellée et vit complètement en autarcie, coupée du reste du monde, de manière totalement pacifique. Et en fait, ils savent qu'une attaque se prépare contre eux, mais eux, ils n'ont pas d'armée, ils n'ont pas de défense. Ils ont une autre stratégie pour se défendre, qui repose totalement sur la non-violence. Et je vous en dis pas plus, parce que pour l'instant, j'en ai pas lu plus. Donc je peux pas vous dire comment ça se termine.
Ouais, elle a l'air d'avoir écrit des trucs super, mais il n'y a pas tant de traductions que ça des œuvres de Starhawk. Mm. Enfin, moi, j'en ai lu un, Révélo Obscur, qui est un des plus connus, qui est très chouette, qui du coup est un essai. C'est vrai que dans ces romans, il y a pas tant de traductions en français. Eh bien, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et du coup, on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission.
Pour finir, moi, j'ai une petite reco musique aussi que je voudrais dédicacer à ma copine Andélie. J'espère qu'elle nous écoute. C'est une chanson qu'on a écoutée ensemble plusieurs fois en voiture pour se donner du courage. Et je pense que ça lui rappellera des souvenirs, en tout cas, je l'espère. C'est une vraie chanson d'empowerment que je vous recommande quand vous avez besoin de vous booster un peu avant d'aller militer, par exemple. C'est Bad Girls de M.I.A.
Meeting you, but if I go to bed, baby, can I take you?
Get back.